Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où la peur, l'anxiété et le manque de sens est partout. Il y a quelques années, après une profonde remise en question, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, celle de m'écouter. De ne plus me laisser guider par mes doutes, mes craintes, mais simplement d'écouter mon instinct, d'agir et de faire. Et progressivement, ça a littéralement tout changé. Je suis Teddy Brodley, je suis entrepreneur et coach, et j'ai décidé pour ce deuxième podcast de partir à la rencontre de ceux et de celles qui entreprennent leur vie pour vous aider à les comprendre et à éveiller chez vous l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Bonjour, bienvenue dans Sage Podcast. Aujourd'hui, je reçois Nassim et je vous laisse découvrir sans plus attendre notre échange. Bonjour Nassim, je suis hyper heureux de faire ta connaissance aujourd'hui. Bienvenue dans Sage. Comment tu vas déjà pour commencer ?
Salut Teddy, merci pour l'invitation. Je vais bien, malgré un janvier qui se rafraîchit pas mal, hein, mais un petit rhume comme ça passé par là, mais en général tout roule, c'est cool.
Ok. Vous ne le voyez pas, mais je vous décris un peu le personnage. J'ai un jeune homme en face de moi. T'allumes l'écran, il a un sourire qui illumine tout le bordel, il a une énergie de dingue. Donc, on va encore une fois passer un bon moment ensemble. Est-ce que tu peux te présenter, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore ?
Ouais, bien sûr. C'est marrant, cette question, quand on me pose cette question, il se passe plein de trucs dans ma tête et je prends quel bout, en fait. Et ça, c'est l'histoire de ma life. Selon les gens que je rencontre, en fait, il y a plein de bouts qui peuvent commencer. Donc, je m'appelle Nassim, j'ai 33 ans. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Saint-Maurice à côté de Paris. Je viens de déménager à Limoges avec une petite famille, là, avec un tout petit bébé là, qui a tout juste 3 mois. Je suis passionné par la culture hip-hop. Je pratique la danse hip-hop depuis presque 20 ans, là, bientôt. Je suis ce qu'on appelle un social business developer. Donc je développe des projets d'impact sociaux ou environnementaux. Et donc c'est un peu ma passion aussi, puisque j'aime bien se faire rencontrer des gens, tout ça pour avoir un impact positif sur la société, quoi.
Ok, trop cool. C'est quoi ton parcours ? Ça a commencé comment ? Au plus loin que tu t'en souviennes ? T'aimerais commencer par quoi, justement ?
En fait, il y a un souvenir que j'ai de quand j'étais gamin. Donc, mes parents viennent d'Algérie. Donc, moi, je suis le premier de ma famille à être né en France. On va en Algérie tous les étés, ou presque, depuis tout petit. Je ne sais plus, je devais avoir 15 ans, peut-être un peu moins, un peu plus à peu près. Je me souviens que chez ma grand-mère maternelle, il y avait de l'eau potable, toujours au robinet. Et ils habitaient dans une maison et tout, au bord de mer. Et chez ma tante paternelle, qui habitait au 10e étage d'un immeuble, juste à côté d'un château d'eau, et il n'y avait pas toujours de l'eau dans le robinet. Et en fait, je sais pas, j'étais tout petit et je vais voir ma mère ou je sais pas qui, je lui dis, mais pourquoi en fait il y a ça alors que chez nous, tout le long de l'eau, il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'étais passionné par les sciences. Je regardais Fred et Jamie tout le temps à la télé et j'étais un peu déter par comment les choses sont faites, construites, comment ça marche, quoi. Et en fait, c'était à ce moment-là où je commençais à me poser des questions sur mon parcours scolaire. J'étais en troisième et je voulais faire des études en sciences, sauf que je n'avais pas des super bonnes notes comme on imagine avoir besoin d'avoir des bonnes notes pour pouvoir faire des études en sciences. Donc, je me fais un porte-clé par la conseillère d'orientation, je redouble ma troisième. Et puis, elle me dit, non, mais tu sais qu'il y a... Je redouble, je vais dans un lycée spécialisé dans la chimie à côté de chez moi. Bon, je redouble encore parce que finalement, je ne suis pas très assidu à l'école. Je suis passionné par les sciences, mais comme je ne travaille pas beaucoup, au lycée, à un moment, il faut bosser, quoi. Et on me dit qu'il y a un BEP juste à côté de chez moi qui est spécialisé en industrie chimique et génie des procédés. Et en fait, je fais ça. Et on fait plein de projets autour du développement durable et tout. Et en fait, je me dis que c'est possible. Donc, BEP, je passe en bac pro, je fais des stages spécialisés dans l'eau pour pouvoir aller en alternance, faire un BTS juste après, parce qu'on m'a dit que si j'avais 14 de moyenne en bac pro, j'étais prioritaire sur les BTS. Donc, je me dis, vas-y, je donne tout ce que j'ai pour y aller. Tout ça dans cette quête de pouvoir trouver des solutions sur la question de l'eau potable dans des pays en développement. Et de fil en aiguille, je fais mon alternance. Je me dis que y a quelqu'un qui me dit que tu peux devenir ingénieur si tu veux. Moi, ayant fait un BEP, je me dis, c'est quoi ce délire ? C'est pas pour moi. En fait, je me donne les moyens et je finis avec un master, ayant travaillé 5 ans dans le groupe Veolia et tout. Donc, ça, c'est un premier bout de l'histoire, quoi. Mais c'est ce qui lance après, du coup, un petit peu ma posture sur comment identifier des problématiques, notamment dans le monde de l'entreprise ou dans les organisations, et essayer de trouver des solutions pour transformer les organisations pour avoir un meilleur impact sur la société.
Ok, et il se passe quoi après du coup? Parce que tu me poses la base et après tu me dis, bah après ça part un peu partout.
Ouais, c'est un peu ça. Bah, j'aime souvent ça, je déroule tout et ça dure longtemps. Si on essaye de faire
Non mais
des
c'est
petits
bien de
bouts.
faire des breaks comme ça. Voilà, premier break, messieurs, dames, il y en aura d'autres. Premier break.
En fait, ce qui se passe, c'est que pendant mon alternance, moi, en alternance, voilà, mon rôle, c'est de gagner en expérience, en compétence sur la technicité. C'est quoi les mécanismes de la gestion de l'eau potable, de l'assainissement, comment ça se passe? Pour à un moment donné prendre ce savoir-faire et le développer ailleurs. Et en fait, ce que je me rends compte, ce dont je me rends compte, et ça, c'est un truc que je n'avais pas estimé, c'est les jeux d'acteurs, de pouvoir et les enjeux de les enjeux de des jeux d'intérêt en fait au sein des organisations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein, je l'ai découvert avec le monde de l'entreprise, notamment entre les strates de managers et les opérationnels. Moi, j'étais sur le terrain, je m'entendais avec tout le monde. Bon, toi, tu l'as dit en intro, moi j'ai un peu la patate, j'ai un peu cette vocation à apporter du bonheur là où je peux être, parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus cool lorsque ça se passe bien et qu'on sourit, même si
Tu
des fois ça va
m'étonnes.
pas, hein, mais c'est toujours plus facile. Et je me rends compte qu'il y a des vraies tensions en fait entre la gestion du management, même les managers avec leurs propres managers. Et j'essaie de comprendre tout ça, mais j'ai pas les outils si tu veux. Enfin, moi je suis en BTS, j'ai fait que des trucs un peu d'ingénierie, j'ai pas ce bagage-là. Et je me dis, bon bah tiens, je vais aller plus loin dans mes études pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Et de fil en aiguille, au lieu de faire un master en ingénierie, je me dis, en fait, ce n'est pas ça qu'il me faut. Ce n'est pas là où je vais trouver mon plaisir. J'ai besoin de faire un master en alternance sur le développement durable avec un tronc commun entreprise et tout. J'ai galéré à trouver ça. Et je trouve que je tombe sur une petite école qui s'appelle Pégase, pas spécialement très connue parmi les grandes écoles qu'on peut voir de commerce ou management. Et en fait, je tombe vraiment avec un tronc commun dédié à l'analyse stratégique des organisations, développée par Michel Crozier et Herb Friedberg. Et là, mind blown. Je commence à comprendre c'est quoi, en fait, comment ça marche, tu vois, quelles sont les règles sociologiques d'intérêt, de pouvoir, etc. Et ça, je l'applique à mes engagements, en fait. Comment on peut faire pour transformer les organisations ou des sujets pour avoir un meilleur impact sur la société. Et je me dis, bah tiens, je vais partir d'un sujet d'enjeu, on va dire, politique, politico-économique, du monde d'entreprise, etc. Comment on fait pour transformer, pour avoir un impact social ou environnemental? Et en fait, je travaille là-dessus. Et en parallèle, je commence à travailler un peu mon personal branding, ma relation avec les gens que j'ai développée en faisant de la danse hip-hop d'ailleurs, puisque avec les battles, les événements un peu partout en France et dans le monde, ben, je développe un peu cette appétence pour aller chercher du contact. En fait, j'ai un peu un savoir-faire qui se développe un peu sur la compréhension des jeux, qui peut savoir. Et j'ai mon savoir-être aussi que je commence à développer, m'approprier, notamment grâce à la culture hip-hop, la danse, où je m'approprie mon corps, qui je suis réellement. Et je fais un lien avec les deux de manière assez improbable. Je pars en Asie pendant 8 mois pour découvrir, rencontrer des entrepreneurs sociaux, faire des petites vidéos, interviews. Et en fait, ça m'amène à comprendre que moi, où je suis bon, c'est aller rencontrer les gens, les démarcher, et aller s'identifier là où il y a un problème, là il y a une solution, et mettre les gens en commun. Et donc, c'est assez ouf. Aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à me rendre compte de tout ça. Mais à l'époque, c'est juste du feeling. Je sais que j'aime bien ça, je sais que j'aime bien ci, je fouille un peu partout. Et j'arrive à lier, en fait, un savoir-faire avec l'école, l'entreprise et tout, et un savoir-être que je développe par ailleurs avec mes activités bénévoles, culturelles, associatives et tout.
Il y a deux trucs que tu as dit qui sont sur lesquels j'aimerais rebondir du coup. C'est quand tu dis ça m'a aidé, pas le hip-hop, tout ça, machin, ça m'a aidé à intégrer ou à devenir qui j'étais vraiment. T'entends quoi par qui j'étais vraiment, ce fameux-là? Parce que c'est ce que dans l'intro du podcast, c'est ce que je dis. Je dis voilà, ce podcast-là va éveiller chez vous l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Ça veut dire quoi du coup chez toi ça?
Merci. Là, je ne vais pas dire que tu me poses une colle, C'est que je pense que j'ai pas mal travaillé dessus, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Je crois que c'est un
Mais il y a
travail de vie,
toujours
tu
des
vois.
trucs à aller chercher, il y a toujours des
Ah
trucs.
ouais, il y a toujours. Il y a beaucoup de choses. En fait, je te disais que mes parents venaient d'Algérie, donc la notion d'identité, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le premier bouquin qui m'a pareil mind-blown sur le sujet, c'est Amin Malouf, Les identités meurtrières. Et donc là, on parle vraiment d'identité. Il parle vraiment d'identité multiple, en fait. On n'est pas qu'une culture, qu'une langue, qu'une religion, qu'une nationalité. Enfin, on est tout un tas d'éléments. Sauf que moi, je m'appelle Nassim, d'origine algérienne, né à Paris, en France, dans un quartier, dans le seul quartier HLM d'une ville plutôt aisée, en bordure de Paris, où je découvre la culture hip-hop avec des gens qui viennent de plein d'endroits différents, à Paris, en France et dans le monde. Et donc, il se passe mille choses dans ma tête, tu vois, par rapport à tout ça. Et donc, moi, à l'école, quand j'étais au collège, bon, j'étais très social et tout ça, y a pas de problème. Mais j'avais une certaine timidité. Donc, dehors, les gens me voyaient comme un gars, enfin, même encore aujourd'hui. Mais j'ai toujours un petit truc derrière et les gens ne croient pas que je peux être timide aussi parce que je suis plutôt avenant. Ouais, enfin, je vais vers les autres. Et en fait, quand tu danses, et ça, c'est même un sujet au sein du mouvement hip-hop ou de la danse hip-hop, c'est des gens qui vont faire des codes, qui vont adopter une posture, et ceux qui vont être eux-mêmes dans leur danse. Et on voit les gens quand on danse, qui ils sont quand ils se lâchent. Et du coup, moi, ça m'a donné. Je suis grand, je fais 1,87 m, j'ai grands bras, des grandes jambes, et j'ai dû m'approprier mon corps pour m'approprier ma propre danse. Et ça a mis des années, même 10 ans, en fait, pour vraiment me sentir bien dans mon corps et dans qui j'étais. Et en fait, la danse, comme mode d'expression, m'a permis de développer mes modes d'expression, notamment la parole. Mon travail aujourd'hui, c'est de faire des négociations, de faire des rendez-vous avec des gens. Et du coup, c'est là où c'est ce petit fil, en fait, qui me permet d'être qui je suis, c'est-à-dire c'est comment, à partir d'une discipline culturelle, sportive, etc., j'appréhende mon corps. Comment l'appréhension de mon corps me permet de me dire que je peux développer cette même réflexion, cette même méthodologie pour développer mes autres modes d'expression. La parole, j'aime beaucoup la photo, j'ai fait un peu de vidéo avec le voyage, j'aime énormément la musique. Quand je danse, j'écoute énormément la musique, c'est la musique qui va me faire ce que je vais faire, en fait. Je vais me laisser aller vraiment. Et sans ça, c'est peut-être pas complet, mais c'est un peu ça le fond de qui je suis vraiment, quoi. C'est comment, avec la danse, j'arrive à comprendre tous les mécanismes qui se passent dans mon cerveau pour pouvoir me mouvoir. Et après, comment je peux le faire pour la parole, l'écoute, le travail, etc., etc.
Ok, t'as vu le Pixar, le dernier Pixar ou pas?
Jazz?
Soul.
Non.
Soul.
Soul, ouais, bah, non, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. J'étais subjugué par le film. Enfin, avec ma compagne, on l'a vu, c'est super puissant.
Hop. Ouais. Là, ça sera coupé au montage, le mec qui essaye de danser.
Ouais,
Je mets une parenthèse là. Est-ce que je t'emmène sur la spiritualité ou pas?
en fait, je pense que j'aurais bien aimé, mais il aurait fallu que je me prépare un peu avant, honnêtement.
Ok,
Parce que
ça
je peux aller
roule.
très loin, mais je préfère.
Ça restera en off entre nous, on en parlera après. On fera ça. Ouais, donc dans ce film, dans ce film, clairement, tu as ce côté à un moment donné où les gens lâchent complètement prise sur quelque part, on va dire, le mental, parce qu'au final, c'est ça, pour toucher vraiment la partie profonde d'eux-mêmes, alors inconscient, etc. On appellera ça comme on veut, hein, chacun met ce qu'il a envie de mettre derrière. Mais ouais, ce film est assez ouf. Donc ce que tu me dis, c'est clairement ça. Et puis quand tu me parles de hip-hop, bon, alors. Les gens qui écoutent, Nassim n'a pas du tout la tête du mec qui est en train de jongler avec la pancarte, hein, pour ceux qui ont vu le film. C'est pas vraiment ça.
Merci de non mais
Ah,
merci de le rappeler.
mais c'est important que les gens ne se fassent pas trop non plus un imaginaire là-dessus.
C'est
Donc voilà. Donc ça, tu as dit effectivement, ok, bah merci pour ça. Et il y a la deuxième partie sur ce que je voulais rebondir tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Mais c'est pas grave. Donc on va trouver un autre enchaînement. C'est pas gênant du tout. T'aimerais partir sur quoi, du coup, par rapport au hip-hop? T'as envie qu'on rebondisse un petit peu sur ta carrière là-dessus, sur ce que t'as fait, tout ça?
Ouais, on peut, parce que enfin, je suis en train d'écrire un texte à ce propos en plus, donc franchement, ça me permet de développer aussi ma pensée, donc allons-y.
Ok. Et justement, tu vois, tu me parles du hip-hop, tu me dis que bah voilà, ça t'a permis de vraiment te comprendre, d'avancer, de voyager aussi. Tu peux me dire un mot bah, justement sur ton parcours, comment tu as découvert le hip-hop
Ouais.
et jusqu'où ça t'a emmené, jusqu'où tu es allé?
Ouais, bah, comment j'ai découvert, c'est par hasard, j'avais un copain du collège qui me dit, ah bah tiens, il y a ce cours là qui est ouvert, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Moi, je faisais déjà plein de sports à l'époque, je faisais de l'athlétisme le mercredi, du tennis de table le vendredi soir, et comme par hasard, ça tombait au même moment que les cours de danse hip-hop. Et du coup, je suis en mode, ouais, je sais pas, j'ai déjà ping-pong. Et au final, en fait, ma sœur, elle fait déjà de la danse depuis tout petite et elle est à ce cours-là. Et je me dis, bon, allez, tiens, j'ai 15 ans, c'est cool. Et puis peut-être que je vais pouvoir, je sais pas moi, gagner des points de street cred au collège parce que je vais faire de la danse, quoi. Je faisais du skate aussi, beaucoup de skate à l'époque. Et à l'époque-là, on avait un peu les skateurs, les mecs du rap et tout différents, alors qu'en vrai, c'est tout un ensemble. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. On peut être passionné de culture hip-hop et adorer le rock, en fait. Hein, alors que moi, quand j'étais au collège, et encore un peu maintenant, mais peut-être beaucoup moins, c'était très distinct. Et ça c'est un vrai sujet aussi, je pense, sur culturel, sur comment on vit en société par rapport à des a priori ou des appréhensions ou des choses qu'on aime ou on n'aime pas. Enfin, bref. Et donc, je découvre un peu comme ça. Et à cette époque-là, quand j'allais faire du skate à Créteil, je passais devant, dans un centre commercial, il y avait des gars qui s'entraînaient au break, qui faisaient du breakdance en fait. On appelle ça du b-boying en réalité. Donc ça s'appelle breakdance dans l'usage maintenant. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller m'entraîner aussi avec ces gars-là maintenant que je sais que ça y est. Et en fait, il s'avère que c'est des personnes qui sont super connues dans le break en France et dans le monde. Et avec un certain savoir-faire, avec un vrai toucher, c'est ce qu'on appelle le toucher en fait, c'est le style qu'on développe. Et il y a le toucher de Créteil qui est connu dans le monde entier et notamment par des personnes comme Karim Barouche, Roméo, Laos, des gars qu'ont vraiment fait connaître le style français, le style européen à travers le monde. Et donc moi j'ai grandi avec eux, avec des personnes qui sont très inspirantes, Laos qui a fait des études de sociologie, Roméo qui est ingénieur en informatique. Je dis ça parce que ça rebondit un peu sur ce que tu disais juste avant, sur le cliché en fait. En fait, c'est pas que des gens à casquette avec des gros sweatshirts, des grosses chaussures, enfin bref. Et moi, j'étais vraiment inspiré par ça, par des personnes qui ont une vie en fait, des réflexions, qui ont beaucoup de sujets et qui appliquent aussi ça dans leur danse. Roméo, c'est très technique comment il danse. Il fait pas des sauts de main, tout ça, on s'en fiche un peu de tout ça. Mais dans sa manière de se mouvoir, il va apporter plein d'éléments techniques. Et ça, et pour moi, de l'extérieur, et je te le dis aujourd'hui, je ne le pensais pas à l'époque, mais ça montre un peu sa manière de réfléchir lorsqu'il taffe. C'est un ingénieur informatique, il dev, il fait du code. Et dans son break, il y a plein de petits bouts de code. Il y a plein de choses qui s'imbriquent les uns les autres, et ça fait un truc de fou. Laos, par exemple, lui, il a un style, c'est des vagues, c'est beaucoup de cercles, beaucoup de mouvements, il monte, il redescend. Les sociologues, il a une pensée, il réfléchit, il est observateur de ce qui se passe autour de lui. Et en fait, sa danse, elle reflète ça aussi. Et je trouve que c'est assez puissant. Tout ça pour dire qu'en fait, ben, je suis inspiré de ces gens-là. Je suis inspiré de personnes qui ont vraiment touché vraiment la culture dans son ensemble. Et moi, ça m'a donné une vision. En fait, je ne me suis jamais dit, je vais percer dans la danse et je vais être le meilleur danseur ou quoi. Mais j'avais à un moment donné une aspiration à être plutôt connu et autre, bah, comme on peut dans plein de disciplines, le sport, le rap, la musique, enfin, dès qu'on fait un truc où il y a un peu d'argent, où on peut être un peu visible à la télé et tout, on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien être cette personne-là. J'avais un peu ça en tête. Mais j'étais tellement déterminé aussi par mes engagements, mes valeurs sur l'impact social, apporter des réponses à des problématiques environnementales dans d'autres pays et tout, que je continuais là-dedans. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que j'avais un peu, je me souviens, j'avais fait un entretien pour une formation au CNAM. Il m'avait posé, vous voyez où dans 5 ans? Et moi, je leur ai parlé un peu de ça. Je leur ai dit, ben moi, j'ai une inspiration, c'est ce fameux Roméo. Et il est ingénieur informatique, mais il cartonne en danse. Et ben moi, j'aimerais bien faire ça, en fait. Et finalement, c'est un peu ce qui m'arrive aujourd'hui, si tu veux. C'est que je n'ai pas percé dans la danse comme j'avais cru à l'époque. Par contre, tout ce que j'ai développé grâce à la danse m'a permis de, entre guillemets, percer dans ma vie professionnelle. Parce que tous les soft skills, tout mon savoir-faire, mon savoir-être, je l'ai développé grâce à mes engagements bénévoles, associatifs et culturels. Et ça, je les applique dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, dans mon travail au quotidien. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai mêlé vie pro, vie perso, comme Jaja, pour le dire comme ça. Non, mais on n'imagine pas, on fait toujours, on en parlait par message rapidement, on fait beaucoup de distinctions entre vie pro, vie perso. Mais moi, je me refuse, et ça depuis des années, de prendre un masque le matin, de le mettre sur mon visage, d'aller travailler, de l'enlever, de changer de masque et de retrouver ma famille. En fait, je suis qui je suis et j'ai envie d'être, de me mouvoir, de parler, de choisir les relations, etc. dans le monde professionnel que personnel. Parce que mes engagements, mes valeurs, je les applique à ma vie au général, en fait. Peu importe qui j'ai en face de moi, peu importe ce que je fais. Et voilà un petit peu le fil de l'histoire par rapport à ta question.
Mais du coup, tu vois, c'est typiquement la question de l'illusion, quelque part, qui est donnée, qui semble être donnée par rapport à, ben, au cursus classique.
Ouais.
Et quand je dis ça, c'est pas du tout en, il y a aucune critique là-dedans. Hein, c'est juste, ben voilà, c'est à un moment donné un constat. Et puis, c'est des choix aussi qu'on subit ou qu'on fait.
Oui.
De se dire, ben tiens, en fait, ouais, ben, je fais école, machin, puis il y a le métier. Et puis, en fait, tout est centré que sur ça. École, métier, machin, marié, enfant, bim, bam, boum, la maison, le bidule, tu vois. Enfin, tu vois,
ouais,
le
ouais.
pack complet, le kit de la vie heureuse et épanouie, tu vois. Et en fait, ça nous pousse inconsciemment ou de façon... bah, pour après, on l'accepte aussi, hein, il y a toujours... C'est plus complexe que ça. Mais effectivement, on le subit aussi. Et à un moment donné, on est tous, je pense, en tout cas, ma conviction profonde, c'est que tout le monde, mais absolument tout le monde, hein, est absolument capable d'être qui il est, c'est-à-dire à la fois multiple. Multiple professionnellement, multiple personnellement. Mais voilà, on est tous capables d'être multiples. On n'a pas qu'un seul visage, on n'a pas qu'une seule identité, on n'a pas qu'un seul truc figé, en fait, et qui fait qu'à un moment donné... Bah en fait, à un moment donné, si tu fais que monotruc, il y a des probabilités, ce n'est pas une obligation, hein, les probabilités que tu te réveilles à un moment donné à 55 ans, 60 ans, et puis que tu te dises c'est chier, je dois encore me lever ce matin, quoi.
C'est ça. Bah, on parlait de on est plein de gens, on est plein de facettes. Moi, il y a un sujet que j'aime beaucoup et qui me touche et que j'aborde pas, j'y apporte pas. Je ne prends pas assez de temps par rapport à ce que j'aimerais, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est la vie, on fait des choix. Et, donc, je fais un travail là, depuis quelques années autour de, justement, ma double culture, donc franco-algérienne. Et je suis parti en 2017-2018, 2 mois, voir mes grands-parents en Algérie, mais juste eux. Enfin, vraiment, presque à la maison, tous les jours avec eux. Et j'ai bien fait ce choix-là parce que j'ai perdu mon grand-père quelques années après. Et j'étais tellement heureux d'avoir pris ce temps-là, d'aller les voir, et pas simplement passer des vacances en été où il y a tout le monde, mais vraiment être là avec mes deux grands-parents le quotidien pendant 2 mois. Je voulais même faire 3 à 6 mois, mais après j'ai eu un boulot et tout. Et en fait, je partais à faire un documentaire sur mon grand-père pour qu'il me raconte un peu sa vie. Il vient d'un tout petit village dans les montagnes de Kabylie. Il neige des fois là-bas, oui, il neige en Algérie. Je sais pas, il a 15 ans, un truc comme ça, il débarque à Alger pour aller trouver du taf et ramène de l'argent pour sa toute nouvelle famille, quoi, parce que ça commence assez tôt à cette époque. Et il ramène ses parents de ce petit village à Alger, à côté d'Alger. Et après, bon, bah, y a sa famille, beaucoup d'enfants, il est électricien, il travaille sur des gros projets avec des grosses entreprises de multinationales ou quoi, qui viennent construire des choses en Algérie. Et après, il y a ma mère qui se marie avec mon père, qui arrive en France, et moi, je suis né à Paris. Et donc, j'avais envie de retracer un peu ce petit fil, finalement, de... On peut parler de transclasse, on peut parler de transfuge de classe, enfin bref, il y a plein de sujets, mais c'est un peu plus complexe, donc on pourrait prendre beaucoup de temps. Mais, et en fait, j'avais envie de me retracer cette histoire-là parce que j'avais fait un voyage là pendant 8 mois, et dans chaque pays dans lequel j'allais, les personnes que je rencontrais me renvoyaient une facette de ma personne. Par rapport à, dans certains pays, on me voyait comme un Européen. Bon, c'est vrai que sur mon visage, je parais plutôt européen. À premier abord, on me dit pas, on m'appelle plutôt Maxime en général plutôt que Nassim, parce que les gens s'attendent pas à avoir un Nassim avec ma barbe rousse et mon teint blanc. Mais du coup, dans certains pays, on me voyait vraiment comme un Européen, un Français classique entre guillemets. Dans d'autres endroits, on comprenait bien que j'étais pas français, parce que je sais pas, moi en Inde, où je m'appelle Nassim, on m'appelait en Inde Nassim Khan, c'est un grand joueur de cricket pakistanais, et du coup ils aimaient bien m'appeler Nassim Khan parce que bon, bah, c'était la référence. Voilà, en Malaisie, on me regardait différemment, donc soit en fonction de ma culture réelle entre guillemets d'origine, soit mon aspect français, soit ma religion, en fonction du pays dans lequel j'allais. Et en fait, quand je suis rentré en France, je me suis posé cette question-là, et j'avais voulu écrire un article, d'ailleurs, que je n'ai jamais publié au final, sur cette histoire-là entre mon grand-père, qui vient de Kabylie, moi qui nais en France, et après je revoyage, et je me suis posé cette question d'identité à rebours, en fait. Et donc, finalement, je n'ai pas filmé, puisque mon grand-père avait Parkinson, et je ne voulais pas le filmer et garder cette image de lui. Et en fait, j'ai écrit un manuscrit qui s'appelle hashtag 40 jours au bled. J'écrivais tous les jours, et pour me donner la patate, je l'ai posté, je me suis fixé comme objectif de faire un post Instagram tous les jours avec une photo, parce que j'avais une banque de photos sur l'Algérie que j'avais accumulée à force de mes voyages. Un jour, un thème, une photo, un texte. Et du coup, ça a donné un projet d'expo, une exposition qui s'appelle hashtag 40 jours au bled. Le manuscrit, je ne l'ai toujours pas publié, mais ce n'est pas grave, je fais des lectures de mes textes, je m'étais dit un jour que j'allais faire un podcast. Parce qu'en fait, j'ai peur que l'écrit soit interprété, pas de la manière dont moi j'ai envie qu'il soit compris. Il y a toujours de la place à l'interprétation. Et j'ai du mal à accepter ça pour un sujet aussi puissant et aussi personnel. Et je me dis qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut raconter lorsqu'on fait des lectures, entre les lignes, des anecdotes, un ton, une manière de le raconter, ou des choses qui nous viennent et qui ne seraient pas venues une autre fois où on fait la lecture. Et donc, je me dis que j'ai créé une expo que j'ai fait de fil en aiguille. Aujourd'hui, c'est une expo où il y a des posts Instagram grandeur nature. Donc, j'ai fait des copier-coller de mes posts Instagram, en gros, et je les ai mis en format A3. J'ai des photos Polaroid en mode souvenir un peu éparpillées dans la salle d'exposition. Je fais une lecture de texte pendant 1 heure. De temps en temps, avec ma mère qui est traiteur, elle fait des repas que les gens ne connaissent pas. Tout le monde imagine le couscous, mais ils ne connaissent pas le couscous de Kabylie avec des grenades aux légumes qui n'a rien à voir avec le couscous qu'on imagine avec royal, avec 3 viandes. Enfin, ça, c'est un truc imaginaire qui n'existe pas dans la réalité. Il y a 1000 recettes de couscous selon où on se trouve. C'est un plat qui est ultra local, en fait. En plus, ça correspond bien aux enjeux du moment, mais on mange la viande là où il y a de la viande. Plutôt là où on a du désert ou des prairies, on a des élevages et on mange des légumes dans les montagnes parce qu'on a plus de légumes et peut-être un peu de poulet. Enfin bref, ça c'est petit aparté. Et donc je fais ce travail-là depuis quelques années. Là, il faut que je me remette un peu dessus pour faire l'expo là en 2023 peut-être. Mais ça, c'est un travail qui m'a énormément apporté aussi parce que ça vient nourrir finalement qui je suis. Et peut-être pour en revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur cette promesse qu'on nous vend avec le monde du travail, la famille, le truc, etc. C'est, je pense que soit on ne nous apprend pas assez à être qui nous sommes ou à chercher à savoir qui nous sommes, parce que je pense qu'on pourrait faire de la philo tout petit. Moi, j'ai fait un BEP et tout, je n'ai pas fait de philo. Je le regrette, j'ai fait un peu de la philo de terrain, si tu veux, avec les gens, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des adultes, dans le sens où moi j'étais en alternance et j'avais des gens qui avaient déjà 40, 50, 60 ans pour ceux qui étaient presque en retraite. Et donc ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Et je pense que si on cherchait plus, au fond de nous, qui on est, les multifacettes, hein, on serait peut-être plus en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on veut voir au quotidien. Et du coup, peut-être être en meilleure forme, en meilleure santé mentale, ne pas avoir à se dire « je dois encore me lever ce matin ». Enfin, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, Mais quand même, ça, à mon sens, il y a peut-être un truc à aller creuser là-dedans, quoi.
Après, la philo, l'initiation à la philo, on va le dire comme ça, quand tu fais de la philo sur... voilà, c'est tu apprends entre guillemets les grands philosophes et on te demande de ressortir les pensées des grands
Mais bien
philosophes.
sûr,
Donc,
mais bien sûr.
t'es pas en mode réflexion, introspection. Après, se posera la question de ben, est-ce que à cet âge-là, tu es vraiment mature pour faire ce travail-là? Mais en même temps, je pense qu'il y a des outils, il y a des clés, il y a des moyens pour. Ben voilà, j'ai l'impression néanmoins que plus on avance malgré tout. Clairement, là, il y a un changement
Ouais.
y a un changement de gap générationnel sur la façon dont les gens prennent leur vie en main ou souhaitent prendre leur vie en main et agir pour. Voilà, c'est pas ah bah j'ai une idée et j'ai une idée. Voilà.
Ouais.
Un jour peut-être, ah bah demain, ah bah dans, oh bah, non, dans 5 ans parce que là. Non, maintenant, la majorité des gens. Le
Oui,
digital aide beaucoup à ça, en fait. Hein.
ouais.
Clairement, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et t'exprimer. Ça aide vraiment à s'exprimer dans le bon sens ou dans le mauvais, mais majoritairement, quand même, dans le bon, je trouve.
Mais je suis d'accord avec toi. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, me suis fait ce challenge sur Instagram. Et c'est ce que je mets en intro de l'expo, que je pourrais développer un peu plus, mais. Il n'y avait pas l'avènement d'Instagram et des réseaux sociaux comme aujourd'hui. En 2017, il y avait beaucoup, hein, c'était déjà présent, Facebook avait déjà cartonné et tout ça. Mais il n'y avait pas toute l'économie liée aux réseaux sociaux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, on peut investir énormément et devenir YouTuber ou podcasteur, etc. Ce n'est pas non plus facile, mais c'était un peu moins vrai en 2017, dans mes souvenirs. Et enfin, c'était plutôt une niche. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ouf parce que sur Insta, on parle beaucoup de. On montrait les vacances, on montrait la bouffe. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et moi, j'avais envie de raconter un peu un truc profond de qui j'étais, de peut-être est-ce que les autres aussi, en lisant ce que je raconte, se poseraient pas les mêmes questions pour eux-mêmes. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir une famille qui vient de l'autre bout du monde. Hein. Quand tu as ta famille qui est originaire de Bretagne, d'Auvergne, du Pays Basque, et que ça fait 2, 3, 4 générations que vous êtes dans une grande ville à Paris ou je ne sais quoi, il y a les mêmes sujets. Hein. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui a été à l'école bilingue en Bretagne. Bah, elle, c'est un vrai sujet, en fait, l'identité bretonne. Et moi, j'avais vraiment envie de créer cette dynamique-là et de pouvoir justement partager ça avec d'autres gens, avec leur propre culture. Il y a des personnes métisses, c'est encore un autre sujet, mais on a des choses en commun. Et en fait, comment on peut créer ces différences-là? Parce que finalement, le monde, quoi qu'on en dise, c'est des migrations, des mouvements, des gens qui viennent d'un endroit à un autre, pour plein de raisons, hein. La famine, le travail, le froid. Bref, d'ailleurs, au Musée de l'Homme, il y a une super carte des migrations et je trouve qui est assez incroyable. Et c'est en ça où on se ressemble un peu tous finalement. Et si on arrive à peut-être puiser un peu là-dedans, on chercherait beaucoup plus des points communs avec les autres par rapport à nos ressentis, nos émotions, plus que de chercher les différences qui sont que de la façade, en fait. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est ce que raconte Amin Malouf dans son livre Les identités meurtrières, c'est que potentiellement, on a plus de ressemblances entre un Teddy ou un Nassim, ici en France, avec un autre gars au Laos, en Inde, au Guatemala, un peu comme nous, même génération, qu'avec nos propres parents ou nos grands-parents. Parce qu'il y a ce fameux gap générationnel, en fait, et un système de valeurs qui est presque différent, finalement. On a des éléments qui nous, dans une lignée, la culture, la spiritualité, la religion, les langues, etc., etc. Mais finalement, dans nos usages, dans nos modes de consommation, nos comportements, nos goûts musicaux, nos goûts culturels et autres, on va peut-être plus se ressembler avec d'autres. Et moi, je l'ai remarqué, je l'ai vécu quand j'étais en voyage, parce que quand je suis allé en Inde et tout machin, ben en fait, j'ai rencontré des danseurs hip-hop, des danseuses hip-hop. J'ai vu un battle de break en Inde, par hasard, à Mumbai, c'était pas prévu. Il y a un gars qui m'appelle, ouais, j'ai vu que tu étais ici, on aimerait bien avoir un Français dans le jury, parce que ça serait cool, ça ferait plaisir aux jeunes qui sont en train de faire ce battle et tout. Et là, c'est ouf à quel point on a créé de la proximité, et moi, j'ai pu vivre des trucs que j'aurais jamais vécu si j'étais allé avec une simple casquette de touriste. Parce qu'en fait, j'allais m'entraîner dans les salles des danseurs au Vietnam, en Malaisie, et du coup, ben, on allait prendre du café ensemble. Et moi, j'étais là, je comprenais rien en discussion, mais j'apprenais énormément. Parce que je voyais comment ils se comportaient, etc. En Malaisie, tu vois, c'est ouf, mais j'avais l'impression d'être en Algérie. La manière de passer une soirée, j'avais l'impression d'être en Algérie avec mes potes. Je comprenais rien, mais je comprenais tout. C'est un truc de fou. On était avec du thé, on mangeait des snacks. Enfin, j'en ai des frissons hein, quand je te raconte ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est ouais.
Ouais, ça se voit. Ça se voit. Merci pour le partage, Nassim, c'est cool. En général, j'aime bien poser la question d'un livre ou d'un doc ou d'un film ou d'un truc qui t'a marqué. Bon, t'as parlé plusieurs fois des identités meurtrières. Est-ce qu'il y en a un autre qui serait ton livre de chevet ou quelque chose que t'aimerais vraiment partager et,
un livre
Un livre ou un doc ou un film ou peu importe, un truc culture, ce que tu veux.
C'est très dur parce que pour chaque facette de ma personne, j'en ai un. Mais pour faire simple, il y en a un qui est quand même assez puissant, qui est un peu à côté de tout ce qu'on se raconte là, mais je pense que c'est assez cool aussi pour compléter le tout. C'est La haine de Mathieu Kassovitz avec Saïd Tarmaoui, Vincent Cassel et Cousin Hub. J'ai oublié, c'est Hubert, je crois son prénom, puis c'est Hubert l'acteur. Et ça, c'est assez puissant aussi. J'ai pas vécu la même vie que ces gars-là. J'ai pas grandi à Charleville-Lévis. Mais il y a énormément de choses qui me parlent. Il y a de la danse hip-hop dans le film. Il y a une bande originale incroyable. Ne serait-ce que la partie où il y a Cut Killer avec la vue. Bon, il n'y avait pas de drone à l'époque, mais ça devait être en hélicoptère ou je sais pas, là, qui survole la vie avec le morceau là, Assassin de la police de NTM. Il y a l'histoire, la fatalité de l'histoire, en fait, du début jusqu'à la fin, avec les péripéties. On y parle de racisme, de discrimination, notamment quand ils sont en poste de police. Il y a l'époque des skinheads que moi, je n'ai pas vécu, que j'entendais beaucoup en écoutant MC Solar, par ailleurs. Enfin bref, je pense à un film assez puissant. Où, moi, je l'ai vu des dizaines de fois. Hein. Et à chaque fois que je le revois, j'apprends d'autres choses.
Ça roule. Le podcast est rendu possible par l'association des entrepreneurs humanistes. Le mot humaniste, c'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi?
Ah ouais, ça c'est...
Démerde-toi avec ça.
Ouais, non mais il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. C'est un mot très complexe. Je ne suis pas académicien, mais je pense que selon qui on est et ce qu'on veut porter comme message, c'est-à-dire notre intention, il veut dire plusieurs choses. Je pense notamment, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais j'ai souvent vu humaniste en opposition à féministe, par exemple. Quand on dit « moi, je suis féministe », ben non, moi, je suis humaniste parce que pour moi, c'est tout le monde. Ben, c'est un peu dommage parce que parfois, dans la notion d'humanisme, en fait, non, je vais revenir un peu en arrière. L'humanisme, d'après moi, ça serait respecter l'humain tel qu'il est. Et du coup, être en écoute et pas en jugement. Donc ça, c'est moi comment je vois les choses. Par contre, j'ai l'impression que selon les environnements dans lesquels on évolue, il peut être utilisé d'une manière un peu orientée. Et je ne suis pas toujours à l'aise avec ce terme-là. Parce que on peut, dans certains moments, peut-être cacher, enfin pas cacher, mais mettre de côté une part de la réalité au sens de l'objectivité, puisque on cacherait les individualités de chacun. Tu vois là où je veux en venir, c'est-à-dire que bref, faut pas confondre humanisme et normalité, par exemple. Et moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que parfois on fait un peu ce mélange-là, quoi.
On rebondira sur qu'est-ce que la norme.
Ah ouais, mais.
Et c'est là qu'un épisode part à durer 3 heures et que ça se transforme en philosophie magazine. Mais il y a plein de sujets effectivement qui pourraient être creusés. Nassim, si je te laisse le mot de la fin, t'aurais envie de dire quoi?
Ouais, ça, j'ai envie de dire, c'est facile, hein, c'est bateau, mais soyons nous-mêmes, quoi. Vraiment, je pense que ça fera du bien à tout le monde.
Ok, cool. Bon, bah, j'espère que t'as passé un bon moment.
Ouais, trop bien.
Ok, moi aussi. J'espère que vous qui écoutez, voilà aussi. Merci en tout cas d'être là. Merci d'avoir écouté. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et puis, Nassim, merci beaucoup vraiment du partage et de ta sincérité. On va dire ça comme ça. Même s'il y aurait un mot plus fort encore, mais là, je ne l'ai pas. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te dis à la prochaine et prends soin de toi surtout.
Avec grand plaisir. Salut.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ce podcast est rendu possible par l'Association des entrepreneurs humanistes. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut.